Oui, bonjour. Je voudrais communiquer un renseignement généreux. Alors, dimanche dernier, au parc Astérix, j'ai vu Ségolène Royal et Daniel Mermet. Personne n'en parle. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'on attend pour prendre une guitare? Salut, c'était Antoine de Champigny.
Bonjour là-bas. La question que je me pose, c'est faudra-t-il pondre Carla Bruni à la Libération? Bon, évidemment, non, ce serait cruel. Bon, en attendant, une ou deux tartes à la crème seraient les bienvenues quand même. Faites passer. À bientôt.
Allez, une bonne nouvelle dans la morosité ambiante. Une bonne nouvelle, c'est que le yacht de Bolloré est libre pour les vacances de Noël. Et oui, Sarko n'ira pas dessus, parce qu'il sera invité par le capitaine Crochet sur son voilier dans les Caraïbes. Voilà, c'est ça le scoop du jour. Bah, s'il pouvait le balancer au crocodile en même temps, je pense que ça arrangerait pas mal de monde. Allez, salut Daniel, à bientôt.
Bonjour, c'est Jacqueline en Vendée. Attention, attention, exceptionnellement, le repère de Chaland s'ouvrira le 20 décembre et non pas le 27. Notre bistrotier préféré aurait décidé dans sa grande sagesse de s'arrêter de bosser pendant la semaine prochaine. On se retrouve donc ce jeudi 20 à 20h30 à la Pitchouli, place de l'Abbé Grelier à Chaland, et on va parler de la décroissance. À très bientôt.
Allô, bonjour Daniel, bonjour aux AMG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, j'ai entendu ce matin Michel Sapin nous expliquer la position du Parti Socialiste en matière de démocratie, à savoir on est pour le référendum, mais on va ratifier le traité européen, ce qui est exactement le contraire. Après avoir entendu hier le pipolosophe BHL parler de ses points communs et de ses dissensions avec le pipolitique Sarkozy. Bon, les points communs, c'est un goût certain pour les poupées Barbie. Ils sont juste pas d'accord sur la couleur des cheveux, je crois, quelque chose comme ça. Après avoir entendu, quelques temps de ça, Julien Drey proposer un scrutin payant pour avant le premier tour des prochaines présidentielles. Voilà, je voulais proposer au Parti Socialiste, au lieu de continuer à se définir comme un parti d'opposition ou d'un parti de gauche libérale, de se définir carrément comme un parti de droite sociale, quoi, ce sera beaucoup plus clair. Ça leur permettra d'intégrer officiellement, après l'avoir fait objectivement, la majorité présidentielle, et ça aura pour conséquence de libérer du temps de parole sur les antennes pour la vraie opposition en France. Voilà. Au passage, entendre Bernard-Henri Lévy et accuser Olivier Besancenot de mégalomanie, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Allez, c'était Eric, chauffeur routier dans l'allée. Bonne journée à tout ça.
Allô, bonjour. Ben voilà, une bonne nouvelle pour les sans-abri de Bordeaux. Enfin, vient de s'ouvrir à Bordeaux ce qui lui manquait le plus, à cette grande ville, un palace de 250 chambres en face du grand théâtre. Voilà, pour les sans-abri, ils ont qu'à aller devant la porte et rentrer de force. Au revoir.
Merci, merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes. C'est génial. Aujourd'hui, on continue encore en Colombie. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes au courant, sans doute, depuis ce matin, on annonce la libération prochaine et probable de la directrice, l'ex-directrice de campagne d'Ingrid Betancourt, Clara Rojas, et son fils, son petit garçon, qui a été conçu en captivité avec un guerriero, et une autre femme qui va être libérée par les FARC, par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Alors voilà, ça suscite évidemment de l'espoir pour les 45 qui sont dans la même situation qu'Ingrid Betancourt, dont les trois Américains qui intéressent beaucoup l'opinion aux États-Unis, comme nous intéressons spécialement à Ingrid Betancourt. Évidemment, les spéculations sur cette libération annoncée. Les spéculations, les interprétations vont bon train, et puis on est surpris d'apprendre que la France serait disposée à recevoir un certain nombre de guérilleros qui seraient libérés dans le cas où cet échange aurait lieu, cet échange humanitaire aurait lieu, ce qui est très généreux de la part de la France, mais enfin, on espère que ces guérilleros seront prudents quand on songe à ce qui est advenu des militants italiens, notamment des Brigades Rouges qui ont été renvoyés, comme l'on sait, pour certains d'entre eux, en Italie. Voilà, en tous les cas, ça constitue tout ça des rebondissements. Il est fort à parier que Clara Roras et son garçon seront sans doute, apparaîtront en liberté, sans doute au Venezuela et très probablement à Caracas, afin de remettre en selle Hugo Chavez. C'est en tout cas très probablement le but des forces armées révolutionnaires de Colombie. Vous savez que Hugo Chavez a été éliminé dans son rôle de médiateur par le président vénézuélien Uribe, et que ça n'a pas plu aux FARC. Enfin, tout ça est un petit peu compliqué, évidemment, si vous débarquez dans cette affaire. Mais qu'est-ce que ce gars-là est en train de nous raconter? Ben oui, ça fait quand même plusieurs semaines, pour pas dire mois, qu'on se penche sur cette question. Et d'ailleurs, on va en donner une preuve aujourd'hui en essayant de faire comprendre pourquoi c'est si compliqué. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi les négociations sont si compliquées entre ce qui semble être des terroristes absolument butés, bornés, comme le sont les terroristes, et puis des gens, des démocrates, des braves gens avec des bons principes, des grands principes généreux et évidemment, surtout, avant tout, démocratiques. On va revenir en arrière, on va faire un peu d'histoire, puisque, on l'a dit et redit, cette guérilla date depuis une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans, 43 ans exactement, et ce conflit est très long, il a une histoire évidemment. Et il y a eu un précédent, dans les négociations, on a appelé ça la houpée, c'est-à-dire ce moment où la guérilla avait renoncé provisoirement et partiellement, mais quand même d'une façon très significative, à la lutte armée pour rentrer dans la vie démocratique normale de la Colombie, et constituer un parti qui s'est appelé la houpée. Sauf que on va apprendre aujourd'hui ce qui est advenu à ce parti et comment, à l'époque, l'État colombien s'est conduit vis-à-vis de ces guérilleros rentrés dans la vie normale. Il y a une mémoire à tout cela, il y a une histoire à tout cela, et on va l'évoquer aujourd'hui avec Ivan Cepeda Castro, dont le propre père a été assassiné à cette époque-là. Et puis, on va retrouver aussi Hassan Rosé de Apartado, Javier Giraldo, ce prêtre de la communauté de paix de San José de Apartado, qui est un observateur très avisé de ce qui se passe dans ce beau pays, très très beau pays qu'est la Colombie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, et j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, c'est Franck de Cherbourg. Je t'appelle que j'ai entendu Boutin qui disait que il y avait plus de problème, que tout le monde avait un toit. Donc à Cherbourg, là tout de suite, là, je suis en voiture, je viens de passer devant un camp. Il y a une cinquantaine de jeunes gars de plein de nationalités qui sont en train de monter un camp. Il fait zéro, voire un petit peu moins. Il pèle, le camp grand froid est déclenché. Et voilà, il n'y a pas de solution sur Cherbourg et les mecs sont dehors. Voilà. Salut, à plus.
Salut Daniel et toute l'équipe. 2 minutes, tu sais, c'est court pour tout ce qu'on a à dire. D'abord, merci pour tes reportages. Et moi, je te les paye. Hein. Franchement, je te les paye. Il n'y a pas à dire, là. Et puis, je voudrais revenir sur un truc que j'ai entendu dire, là. Mais là, c'est un coup de gueule. À un continental, je ne sais plus où, dans quel coin de France, ils sont prêts à repartir sur leurs 40 heures pour gagner plus. Mais enfin, ils oublient quand même que les patrons se sont pris des milliards dans la poche, des milliards d'euros ils se sont mis dans la poche. L'autre, notre nabo, là, le Sarko, il s'augmente de 206%, et bientôt on va lui payer son mariage en grande pompe. Et nous, on veut nous faire retourner aux 40 heures et travailler plus et toujours exploiter plus. Mais enfin, il faut que les Français se réveillent, là. Qu'est-ce qu'on fait, là, tous, là? On s'en prend plein sur la tronche, et on dit amen, et on dit amen. Mais non, mais c'est... Je sais pas, moi. Il faudrait qu'on se bouge, là. On est en train de tout nous bouffer de partout. sur la planète entière. Alors, non, vraiment, là, c'est un coup de gueule, parce que moi, j'y comprends plus rien, j'y comprends plus rien. Bon, sur ce, quand même, je me calme un peu, là, puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, quand même. Et solidarité, hein, solidarité, à ne pas oublier, hein. Allez, bisous à tous, ciao.
En 20 ans, la violence politique a fait 72 000 morts en Colombie, non compté les centaines de victimes tombées sous les balles des bandits ou les trafiquants de drogue.
Se matan los guerrilleros que son gente pobre y los policías y soldados que van a combattre son gente humilde.
Ceux qui se tuent, ceux qui meurent, c'est les guerriers, c'est en général des gens du peuple, et les militaires et la police qui sont aussi les gens du peuple. Voilà,
porque
c'est
entre eux qui se tuent.
Facile de tuer ici. Ici, on tue tranquillement.
Si, t'en pagando los muertos. Là, ils payent les morts, là.
Combien ils payent un mort?
16, 18 millones.
16 ou 18 millions.
La stratégie paramilitaire en Colombie est née pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla.
En Colombie, les scènes de violence se succèdent depuis l'assassinat d'un militant communiste.
Mais pour attaquer une manière de penser, c'est-à-dire les sympathisants du communisme.
En Colombie, on ne tue plus de personnes que ce qu'on a tué en Chili pendant les 17 années de la dictature de Pinochet, par exemple.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Antoine Chao et Guy Van Til. Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie.
La base, j'y suis. Escuchen, la base, j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Las 4 de la mañana, 11 minutos en Colombia. Estamos en directo a través de Caracol Internacional.
En el 1998... qui mataron primeramente un hijo mio.
La première chose, c'est en 98, ils ont tué un de mes fils.
Llegaron los paracos con el nombre de La Pelona.
Donc c'était une brigade de paramilitaires, on dit los paracos, mais ils s'appelaient La Pelona.
Llegaron con el nombre de La Pelona, que llegaban a pelar gente, pues.
Parce qu'ils venaient ici pour plumer les gens,
claro.
Quoi.
Y en ese tiempo mataron mucha gente.
Et à ce moment-là, ils tuaient beaucoup de gens.
El que salía a la hormiga con botas lo mataban, salía con camisa... Así ancha, también lo mataban.
Celui qui sortait avec des bottes, celui qui sortait avec une grande chemise, il était tué,
sí,
tout de suite.
Pourquoi?
Porque decían que era la guerrilla.
Parce qu'ils disaient que c'était quelqu'un de la guérilla.
Y ahí fue que mataron a mi hijo, pues. Y después en el 2000.
Ils ont tué mon fils et en 2000.
Apenas si así salían los hijos, ya no los van a ver más, porque la mayoría ya iban haciendo bajar.
Là, on pouvait plus sortir. Et si on voyait nos fils sortir, là, on était inquiets parce que les paramilitaires faisaient des descentes.
Et donc, ils pedían cédula, que medio no tenía, y enseguida lo cogían, le echaban al monte y lo mataban.
Ils demandaient les papiers, et si quelqu'un n'avait pas de papiers, ils l'emmenaient dans la montagne, ils le tuaient.
Porque ellos, los paramilitares, son ayudados por el gobierno.
Parce que, de toute manière, les paramilitaires, ils sont aidés par le gouvernement.
El 27 de diciembre del 2000.
Le 27 décembre 2000.
Ahí llegaron, nosotros estábamos ahí, toda la familia estaba trabajando.
Là, ils sont arrivés, nous on était toute la famille en train de travailler.
Cuando mataron a cuñado.
Ils ont tué mon beau-frère.
Al marido mío.
Mon mari.
Al niño de 12 años mío.
À mon fils de 12 ans.
La niña,
et quand ils ont tué mon mari, il y avait ma fille qui était là, vous voyez, elle a une trace de...
Et là, il y a une petite... Quel âge tu as?
11.
11 ans, elle est mignonne comme tout, et là, sa maman montre son épaule. Elle avait 4 ans à ce moment-là, elle a une épouvantable cicatrice sur l'épaule, cette petite. Et là, ça fait, ils ont tué combien de personnes? C'est un massacre.
Ils en ont 5.
Ce jour-là, ils ont tué 5 personnes.
Épouvantable cicatrice, la mort a une histoire. La mort a une histoire en Colombie. Aujourd'hui, on annonce une libération possible d'une femme otage dans la jungle colombienne. Mais derrière tout cela, il y a une histoire. On parle de négociations, d'échanges, de bras de fer, mais derrière tout cela, il y a une histoire. Et il y a une histoire qui est sans doute une des pages qui éclaire le mieux ce qui se passe actuellement. En mai 1985, dans le cadre de négociations tentant d'apporter une solution au conflit armé qui s'éternise en Colombie, naissait la UP, l'Union Patriotique. Et c'est les membres de ce mouvement politique, de ce parti politique, ont été les uns après les autres exterminés. Ça peut paraître quelque chose d'extraordinaire que des militants politiques, des gens engagés dans un parti, des élus, vous allez le découvrir, soient les uns après les autres éliminés, abattus. Combien ? 3000. De 3000 à 5000 selon les sources. Et qui étaient ces membres de la UP ? Eh bien, pour beaucoup, des guérilleros, on va dire repentis, entre guillemets, en tous les cas, des guérilleros qui, dans leur parcours politique, étaient passés de la lutte armée à au combat politique, on va dire, normal et démocratique. Eh bien, ils ont été abattus. Par qui ? Eh bien, par les paramilitaires, bien évidemment. Mais qui commandait les paramilitaires ? C'est une question à laquelle on va essayer d'avoir des éléments de réponse. Mais en tous les cas, ce qu'on va entendre aujourd'hui, ce qu'on va nous expliquer aujourd'hui, n'est pas sans écho et sans référence avec la situation dans laquelle on se trouve. Derrière l'image d'Ingrid Betancourt, il y a la Colombie, et la Colombie a une histoire. C'est jusqu'à 16h, c'est la basse édition.
Lisandro Mesa, el sabanero mayor, parapolítico no.
Para doctor,
pour devenir docteur,
para enfermero,
pour devenir infirmier,
para todo lo que quieras
tout ce que tu voudras étudier,
ahora salud,
il y aura santé, volonté dinero, et argent.
Lo importante es que te quieras superar.
Rappelle-toi que
para
pour tout ce qui te fera t'améliorer,
para
bombero, pour devenir pauvre, pour devenir pompier, pour que tu deviennes l'orgueil de la famille,
para eso yo
tout ça, je vendrai des petits mots. Parce qu'il faut toujours étudier que quelque chose dans la vie.
Para politico, non. Para politico,
pour devenir un homme politique corrompu,
para
non.
Politico, non.
Un homme politique lié aux criminels paramilitaires, non. Devenir comme les 40 proches du président Uribe déjà en prison, non. Pour tout ce que tu voudras étudier, sauf pour ça, je te payerai les études. Devenir médecin,
para
pour être architecte,
para que seas
pour que tu sois utile à la société,
para ver si
pour que tu assures ton futur,
para
pour
que
celui qui doit t'éduquer,
para
pour devenir taxiste, pour devenir footballeur, pour que tu joues comme le grand Vive Valderrama.
Para todo lo que emprendas en la vida,
pour tout ce que tu vas apprendre dans la vie te sert, il faut que tu n'oublies pas ça.
Para politico,
pas de parapolitique,
para politico,
pas de magouille entre les politiques et les paramilitaires.
Para politico, no. Para politico, no. Para politico, no. Para politico, no.
Para todo lo que quieras estudiar, pero para eso te lo pago yo.
Pour tout ce que tu voudras apprendre, sauf pour ça, je te payerai les études.
No. Para politico, no. Para politico, no.
No, no, no y no y no.
Je suis le fils d'un sénateur de la République de la Colombie, qui s'appelle Manuel Cepeda Vargas. Il a été tué en 1994 et j'ai fondé une organisation de droits de l'homme qui s'appelle la Fondation Manuel Cepeda Vargas. Je suis aussi le représentant d'une coalition des organisations qui luttent pour la justice, que c'est le mouvement national des victimes de crimes d'État. Et j'appartiens aussi à le mouvement Fils et Filles pour la mémoire et contre l'impunité.
Voilà, Yvan Cepeda est avec nous, est devant nous. Chance, il est francophone. Et voilà, il vient d'expliquer en quelques mots ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait ? Eh bien parce que son père, Manuel Cepeda Vargas, a été assassiné dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce parti qui était la UP. Alors, il y a une chose sur cet homme qui est en face de nous, il est en danger de mort, ce militant. Il n'est pas le seul d'ailleurs hein, dans ce pays, mais ceux qui luttent pour les droits de l'homme, pour une certaine justice, pour changer un peu les choses, desserrer un peu l'étau de peur et de terreur qui règne sur ce pays, eh bien, ils sont régulièrement menacés et les défenseurs des droits humains s'inquiètent pour des menaces qui ont été faites envers Ivan Cepeda Castro le 17 août 2007. Tout récemment, une guérilla qui s'appelle Aguilas Negras a adressé carrément un message qui lui indiquant de se taire, faute de quoi ses jours seraient en péril. Évidemment, c'est pas le genre d'homme que ce genre de menace arrête, mais ça donne quand même une idée du climat qui règne dans cette bonne ville de Bogota.
Tu parles de lutte, d'organisation, mais il y a toujours de la menace. Et toi-même, tu es menacé.
Oui, je pense qu'une condition très naturelle et commune, malheureusement, dans mon pays. J'ai dû entreprendre l'exil avec mon épouse. On a été à Lyon pendant 3 ans et demi. Et le français que je parle, avec beaucoup d'erreurs et problèmes, je l'ai appris à Lyon et j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque-là.
Oui, enfin, tu as des souvenirs de cette époque-là. Nous, on a sous les yeux une communication qui est toute récente, qui date de septembre 2007, qui vient de Frontline, qui défend les défenseurs des droits de l'homme, qu'en somme. Il y a un groupe paramilitaire qui s'appelle Aguilas Negras, c'est-à-dire les Aigles Noirs, qui te menace, toi, ainsi que Hernando Meneses Velaides, qui est le secrétaire de l'Union syndicale des ouvriers.
Oui, c'est une des menaces. On a eu beaucoup de situations dans lesquelles cet avertissement de nous faire taire ou de nous faire prendre l'exil une nouvelle fois. Mais on a maintenant l'accompagnement de Brigade Internationale de Paix, que c'est une organisation de volontaires européens, même de volontaires français, qui sur place nous font un accompagnement solidaire. Et ça nous protège devant ce type de menaces.
Tu veux donc dire que si on veut soutenir Ingrid Betancourt, si on veut militer pour qu'elle soit libérée, il faut vous soutenir aussi.
Je pense qu'il faut soutenir les efforts que fait la société colombienne. Et dans un monde globalisé, je pense que la situation colombienne est de plus en plus significative pour les citoyens européens. Bien, mon père appartenait à un mouvement politique qui s'appelle l'Union Patriotique, que c'est une coalition qui a été créée après un accord signé en 1984 entre le gouvernement colombien et les guerrilleros de FARC. L'idée de ce mouvement était de faire une transition de la guérilla à la vie politique. Mais cet accord a été rompu et ils ont commencé les crimes contre ce mouvement, la Union Patriotique.
C'est-à-dire que c'était en 1984, le président était un conservateur qui s'appelait Betancourt, qui n'avait rien à voir avec Ingrid Betancourt, et qui, lui, a entrepris des négociations entre la guérilla et le gouvernement. Une partie au moins des FARC ont accepté de rentrer dans le jeu politique normal, disons.
Oui, le processus de paix était en train de se développer avec la création d'un mouvement politique dans lequel il y avait représentants des guerrilleros, mais aussi représentants des partis politiques qui ont été légaux. Donc l'accord consistait en que le gouvernement s'est engagé à garantir l'action politique des personnes de l'Union patriotique et les guerrilleros avaient pris le compromis de faire un cessez-le-feu et d'arrêter les séquestrations et d'autres formes de violence.
En Colombie, la guérilla pactise avec le gouvernement. Les dirigeants du mouvement M19 ont signé hier un accord de cessez-le-feu avec les autorités de Bogota.
Avec la signature d'un cessez-le-feu entre gouvernement et guérilleros du mouvement M19, on peut dire que 27 000 des 30 000 guérilleros colombiens ont désormais choisi d'arrêter les hostilités, au moins pour un temps déterminé. Les pro-communistes avaient été les premiers à répondre en mai dernier à l'appel du président Betancourt, essayons de troquer des réformes sociales contre la paix civile.
25 août 1984, France 3.
Mais très vite, cet accord a été rompu pour l'État, parce qu'ils ont commencé...
Pour toi, c'est l'État qui a rompu l'accord.
Oui, je pense qu'il y a une trahison de l'accord, parce que les militants de l'UP, de l'Union patriotique, ont commencé à être tués d'une façon systématique. Dans les premières élections, après cet accord, l'Union patriotique a réussi à avoir un résultat électoral que pour la première fois pour la gauche en Colombie était un succès très significatif.
C'est-à-dire, ça faisait quoi?
C'est-à-dire l'élection de 14 parlementaires et d'un très grand nombre de députés locaux et d'autres types de représentation dans les organes du pouvoir local et national en Colombie. Et donc, dans les premiers crimes, il y avait d'un côté cette idée que les représentants du parti de gauche étaient une espèce de civil qui représentait la guerrilla, mais aussi l'idée d'exterminer une alternative politique au parti traditionnel et leur pouvoir dans les scènes colombiennes.
Des pages peu connues, en tous les cas de nous, de cette histoire de la Colombie. On parle de génocide. Il faut faire attention évidemment à une définition comme celle-là, mais en tous les cas, on peut parler d'un, comment dire, d'un policide, d'un politicide. Ça, c'est très clair. Voilà ce qu'en pense notre ami Ravir Giraldo, de la communauté de paix de San José de Apartado. Vous vous souvenez, cette longue marche qu'on a faite avec lui et avec surtout les habitants de cette communauté prise entre deux feux, le feu de la guérilla et le feu paramilitaire, et qui résiste à tout depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, ce qui leur a valu des pressions et des violences au point que 185 ou 187 d'entre eux, des villageois de cette communauté, ont été assassinés. Et la marche à laquelle nous avons assisté, participé donc avec vous, puisque vous les avez suivis, vous aussi, était un hommage aux quatre derniers disparus, enfin à paysans assassinés. Voilà son point de vue, voilà le point de vue de Ravir Giraldo. Je le rappelle, c'est un prêtre jésuite de la sensibilité, de la théologie de la libération, sur cette affaire de la UP. Quand on vous lit, vous êtes théologien de la libération, j'ai lu des interviews que vous avez données. Pour vous, la cause profonde de toute cette histoire, c'est évidemment la question sociale.
Oui.
C'est la question des inégalités sociales. Est-ce que la question sociale est la question de la guérilla, la question numéro un de la guérilla? Ou bien est-ce que la guérilla est prise dans son propre fonctionnement, dans ses propres contradictions, dans son propre fatigue?
Il faut prendre en compte qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, le président Betancourt, aux années 83-84, a commencé un dialogue avec la guérilla et a proposé à la guérilla de FARC d'abandonner la lutte armée et commencer à fonder une espèce de parti politique pour participer dans les élections et pour participer dans les luttes démocratiques. Bon. La guérilla a accepté et a commencé à fonder un parti politique qui s'appelait l'Union patriotique. et a participé dans les élections de l'année 86. Mais en même temps, l'armée, les paramilitaires ont commencé à tuer à tous les militants de l'Union patriotique. Ils sont exterminés, l'Union patriotique. Presque tous les gens qui ont été élus pour le Parlement, pour les assemblées des départements, pour les conseils municipaux, pour les maires des petites villes, etc., ont été tués. Et beaucoup de militants, des chefs de partis, les étudiants, les paysans, les syndicalistes, etc., ont été tués. Il y a plus de 3000 personnes qui ont été tuées. Et c'est pourquoi la guérilla est retournée à la lutte armée.
En Colombie, les scènes de violence se succèdent depuis l'assassinat d'un militant communiste. Nombreuses grèves, journées de protestation. Hier, un enfant de 12 ans a été tué par balle. Depuis dimanche, c'est 11 personnes qui ont été tuées au cours de ces manifestations.
TF1, 14 octobre 1987.
Gigantesque journée de protestation après l'assassinat du plus important dirigeant communiste, président de l'Union patriotique. Jaime Pardo Leal, 48 ans, a été tué par balle à la Mesa, située à 80 km à l'ouest de la capitale Bogota. L'attentat a été perpétré par des inconnus qui circulaient en voiture. Aussitôt, certains mouvements de guérilla, tels que les forces armées révolutionnaires, ont décidé de rompre la trêve avec le gouvernement. Il n'est plus question de paix ni de dialogue, ont-ils déclaré. Maintenant, c'est la guerre.
Même le président Pastrana, je me souviens d'un discours qui a fait le président Pastrana en Espagne, après son élection comme président, il a dit, bon, malheureusement, c'est la réalité. La guérilla a accepté, participé à la lutte démocratique, mais malheureusement, on a tué tout le monde. Et aujourd'hui, disait Pastrana, aujourd'hui, il n'est pas possible de leur demander de répéter la même histoire, de les inviter à participer dans un parti politique et participer dans les élections. C'est une histoire échouée, disait Pastrana. Il faut prendre en compte toute cette histoire. Et pour comprendre les raisons de la guérilla, je crois que la guérilla, c'est un mouvement qui toujours nous fait mémoire de la violence en Colombie et nous dit que il n'y a pas de possibilité de participer dans une lutte démocratique. Et la répression contre tous les partis, les mouvements qui ne partagent pas la vision des classes dirigeantes, c'est la cause de l'existence de la guérilla, non?
Or, pour les États-Unis, acteur important dans cette affaire. Or, pour l'Europe, acteur aussi dans cette affaire, les FARC sont inscrits sur la liste des groupes terroristes. Or, les FARC, évidemment, demandent à être considérés comme un groupe belligérant, de combattants, mais pas d'être considérés comme des terroristes. Et ça, ça fait partie de la négociation. C'est une des raisons pour lesquelles Ingrid Betancourt est là où elle est. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comprendre n'est pas défendre, n'est pas en train de faire l'apologie des FARC. On essaye avec Javier Geraldo et avec Ivan Cepeda de comprendre le contexte historique et cette violence de l'État. On a beaucoup parlé au cours de ces reportages des paramilitaires, mais les paramilitaires, on a dit à quel point ils manipulaient, ils avaient le pouvoir sur le pouvoir politique, mais aussi comment cette violence, et cette histoire de la Houpé le montre, est une violence d'État.
Cette criminalité d'État, cette violence de l'État, elle commence quand ?
Bien, je pense qu'on peut dater l'existence de ces criminalités dans le début des années 60, parce que c'est le début aussi du conflit armé en Colombie. Il faut rappeler que les deux groupes de guérilla, les FARC et les ELN, existent à partir de 1964, 65, 66.
Comment et pourquoi naissent ces deux guérillas?
Bien, ces deux guérillas ont eu le début dans des conflits dans le monde rural en Colombie. Il y a des populations qui ont été rejetées par la violence, pour la lutte sur la propriété de la terre, qui ont été chassées par des moyens violents, mais des autres petits groupes ont pris la décision de mener la lutte armée. Et donc, je pense que la lutte de ces groupes a des raisons dans la question de la terre en Colombie.
Oui, ce qui nous semble inimaginable, mais enfin c'est quand même le chiffre qui circule, c'est que 1% des habitants de la Colombie sont propriétaires de 80% des terres.
Oui, la Colombie est un des pays dans le monde qu'il y a une concentration de la propriété terrienne très monopolistique. C'est une concentration, une accumulation de richesses qui a été menée d'une façon très violente. C'est l'histoire des dernières 40 ans. En Colombie, il existe presque 4 millions de personnes qui ont été déplacées par la violence. Et ces personnes habitent maintenant dans les grandes villes et sont des populations qui sont réduites à la misère, à la pauvreté, dans des conditions infrahumaines d'existence.
Plus de 40 ans, 43 ans de FARC, 43 ans de lutte. Que veulent les FARC aujourd'hui? Que sont les FARC aujourd'hui? Le point de vue de Javier Giraldo.
On n'a pas encore beaucoup parlé de la guérilla et on n'a pas beaucoup parlé non plus des FARC en particulier. Pour vous, est-ce que aujourd'hui les FARC ont encore une signification politique, sociale, ou bien c'est simplement comme vu du point de vue de Washington, un mouvement terroriste?
Je crois qu'il n'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement rebelle, oui. Et si on analyse la dynamique, on peut dire, de la guerre, une guerre irrégulière n'a pas d'autre moyen de financement, de soutien, que des actions illégales. Par exemple, l'enlèvement des personnes. Mais je crois que dans la mesure où la violence de l'autre côté est plus forte, il y a une réponse beaucoup plus violente de la guérilla. Je crois que la violence de la guérilla, c'est une réaction à la violence des paramilitaires. Mais le gouvernement dit toujours que la guérilla n'a pas de motifs, des enjeux sociaux, mais seulement des enjeux économiques, des profits. Mais quand il y a des protestations sociales, par exemple, quand il y a des grèves, quand il y a des marches, tout ça, le gouvernement dit toujours « Ah, c'est la guérilla qui est derrière de tout ça. Bon. » Alors, le gouvernement reconnaît que la guérilla est derrière les protestations et les revendications sociales.
Et c'est la vérité. Pour vous, il est vrai que la guérilla aurait une base sociale toujours, a une base sociale?
Oui, je crois que dans la campagne surtout, la guérilla a une base sociale. Mais c'est vrai aussi que la guérilla a commis beaucoup de crimes qui ne sont pas acceptables à la lumière du droit international humanitaire et qui sont des crimes de guerre, c'est vrai. Et ils ont tué beaucoup de gens qui ne sont pas engagés dans la guerre.
Ils détiennent toute une centaine d'otages.
Oui. C'est vrai, mais aussi c'est vrai que la guérilla a beaucoup d'appui de base.
Si demain, imaginons l'inimaginable, la guérilla arrêtait et se présentait sur une liste électorale, faisait une liste de les FARC. Voilà. Mm-hmm. Bon, en 2010, je ne sais pas à quelle occasion qu'elle est chose. Quel serait, selon vous, le nombre de Colombiens qui voteraient?
Je crois que très peu. Très peu. Puisque l'action de la guérilla ne se développe dans ces milieux démocratiques, disons, au moins du point de vue formel. Mais je crois que les gens qui sont dans la campagne, qui sont menacés par l'armée, par les paramilitaires, ils cherchent beaucoup la guérilla pour se défendre.
C'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui, oui.
Quel lien vous faites entre les paramilitaires et le gouvernement?
C'est la llevan de la main.
Ils sont main dans la main.
Et la police también.
Et la police aussi.
Qu'est-ce que vous avez pour vous défendre?
Dios del cielo, parce que...
Dieu du ciel.
Mm-hmm. Il n'y a plus que ça.
C'est Dios qui nous m'assure. Allí
les extrañame entonces.
Porque ellos, los paramilitares, son ayudados por el gobierno.
Parce que, de toute manière, les paramilitaires, ils sont aidés par le gouvernement.
Ellos se adueñaron de las cosas que tenía la gente.
Donc ils se sont appropriés les choses que les gens possédaient ici, ils les faisaient partir en courant.
Uh-huh. Ellos se apoderaron de todas las cosas de la gente.
Ils se sont tout hasta appropriés, de mi casa toutes les choses, les gens, même de ma maison aujourd'hui.
Por aquí andan matando gente.
Sí, continúa a tuer les gens.
Sigue continuando la muerte.
La mort continue ici.
Los
continue.
Matan y los entierran.
Ils les tuent et les enterrent.
Hace unos dos, tres días mataron a un muchacho.
Ça fait deux, trois jours, ils ont tué un gars.
Abrieron el hueco, lo mataron, lo han enterrado.
Ils l'ont tué, ils ont creusé un trou, ils l'ont enterré.
À quel endroit?
Aquí en La Dorada.
Ici, à La Dorada.
C'est beaucoup ces paroles que vous entendez. Ça passe comme ça, une émission de radio sur France Inter, là-bas, c'est j'y suis, vous êtes dans la voiture, dans la cuisine, dans le train. Mais c'est fou, c'est ce qu'on entend là. Si on s'arrête à une minute et qu'on réécoute ça, c'est fou. Et c'est fou ce que disent les gens. Et c'est fou le courage qu'il leur faut pour dire ces choses-là. Et tout ça, c'est important d'écouter ça. C'est important de se dire que il y a ces otages, il y a des libérations promises, il y a de l'espoir, du désespoir, mais que tout ça, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il y a une histoire, une longue, longue histoire, une lourde histoire, une histoire échouée, nous a-t-on dit, et qui nous devons comprendre. Nous avons l'occasion de la comprendre. Ce qu'on s'était dit en partant en Colombie, c'est que l'image d'Ingrid Betancourt était ouvrait une passerelle entre la Colombie et nous. Elle est franco-colombienne, après tout. Dans franco-colombien, il y a français. Et il y a des histoires, il y a une histoire de France qui se déroule en Colombie. C'est une histoire, en tous les cas, qui nous concerne et qui nous passionne et que nous avons à comprendre. Voilà pourquoi on est avec Javier Giraldo et Ivan Cepeda Castro qui raconte justement cette histoire. Alors, entre 1966 et 1998, selon le travail de votre association et des associations de droits de l'homme, on aurait 44 000 cas de disparition forcée d'assassinat.
Oui, c'est un chiffre toujours très incomplet et très partiel, mais on a réussi à documenter ces milliers de crimes perpétrés par les membres de l'armée ou par des groupes paramilitaires avec le soutien de l'armée. C'est-à-dire, sont groupes qui, en apparence, fonctionnent comme des groupes de justice privée, entre guillemets, mais des milices ou des escadrons de la mort, mais qui, en réalité, sont une prolongation illégale de la force armée, qui fait le travail sale, la guerre sale, contre les paysans dans beaucoup de régions de la Colombie. Et régulièrement, en Colombie, la disparition forcée en masse perpétrée par les paramilitaires a fini avec l'enterrement de milliers de personnes dans des fosses communes, dans des cimetières clandestins, que jusqu'à présent commence à apparaître comme une réalité tragique dans la Colombie.
Qui sont les donneurs d'ordre? À qui profitent ces crimes?
Et régulièrement, ce sont des élites régionales, des politiciens, des latifundistes,
propriétaires terriens,
terratenientes, comme on dit en español, et aussi des mafias, des narcotrafiquants, pour s'approprier des immenses richesses et de faire des business aussi dans ce type de région. Dans beaucoup de ces territoires, se mènent les chemins de la drogue en Colombie, ou aussi sont utilisés pour les multinationaux qui font l'exploitation de richesses pétrolières, minéraux ou pour la cultivation industrielle de la palme de huile ou de la banane aussi, comme c'est le cas de Chiquita Brands, par exemple.
Hello, amigo. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. To have bananas that are fully ripe, you must be absolutely sure to take them home and let them ripen in a temperature.
Bonjour, bonjour.
Bien, je pense que c'est très illustratif le cas de Chiquita. Chiquita a présence en Colombie depuis des années, même il y a un passage littéraire qui illustre bien la présence de Chiquita en Colombie, c'est dans le roman de Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude, l'épisode de le massacre de travailleurs dans la zone bananière en Colombie, perpétré pour la United Fruit Company. La United Fruit Company était la multinationale Chiquita dans les années 20 en Colombie. Mais après, le Chiquita a financé le groupe paramilitaire. Elle a aussi permis le trafic d'armes pour les paramilitaires dans un port qu'il avait dans le nord de la Colombie. Et maintenant, pour la première fois, dans un tribunal aux États-Unis, il y a un premier procès juridique qui, d'une façon claire, établit la responsabilité seulement économique, pas pénale, de la multinationale.
Oui, mais qui a été obligé de payer quelques millions de dollars d'indemnisation.
Oui, mais ce sont très peu, comparativement parlant, sur les crimes commis dans la région où a été Chiquita, l'Urabá, que c'est une région dans la frontière avec le Panama en Colombie, ont été perpétrés environ 3700 crimes de paysans et même de leaders syndicaux de l'entreprise Chiquita. Chiquita dit devant le tribunal qu'elle a dû payer des tributaires pour que les paramilitaires et les guerrilleros n'aient commis des crimes contre l'entreprise. Mais ce qui est paradoxal est que parmi les victimes figurent de très importants leaders syndicaux des entreprises qui ont été la façade de Chiquita en Colombie. À ces leaders ont dirigé des luttes pour l'amélioration des conditions dans l'entreprise.
Hello, amigo. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way.
Bonjour, bonjour.
Un dernier point sur le rôle des États-Unis dans tout ça. On sait que la Colombie, le troisième pays, a bénéficié des soutiens américains après Israël, l'Égypte, la Colombie.
C'est vrai.
Il y a le plan Colombie. Et quand on aide de cette façon un pays, ça ne va pas sans contrepartie. Alors on a évoqué la présence des multinationales ici, ici même là où nous sommes, à travers la culture de la banane, etc. Mais comment les États-Unis influencent une évolution?
Bon, c'est une domination très ancienne.
Javier Giraldo.
Les années 50 et 60, c'était la politique anticommuniste qui dominait toute la politique nationale, mais poussée par les États-Unis. Mais dans les années 80, c'était la drogue, une espèce d'occasion, de prétexte pour contrôler tous les mouvements sociaux en Colombie. C'est sous le prétexte de la drogue que les États-Unis envoient des troupes, des mercenaires, entreprises militaires privées. C'est comme ça qu'ils contrôlent tous les mouvements du pays.
Merci. Mais est-ce que les États-Unis pourraient accepter un gouvernement de gauche, supposons que le pôle démocratique en 2010 ait des chances? Est-ce que les États-Unis interviendraient, feraient pression? Est-ce que les États-Unis pourraient lâcher Uribe?
On dit que les États-Unis ont déjà élu les successeurs d'Uribe. Et ils poussent à travers beaucoup de moyens leur politique. L'achat des journalistes et beaucoup d'autres moyens dits démocratiques. C'est la domination.
Un petit rire d'Aurélien Géraldo, qui suit ça et qui vit ça et qui agit dans ce pays. Un homme engagé, on va dire, un homme engagé. Tout comme Yvan Cepeda Castro.
Vamos!
Alors, sur l'ensemble de la violence depuis 20 ans, 87-2007, pour donner une séquence de temps, vous dites que 70% de la violence incombe à l'État, c'est-à-dire État paramilitaire et armée, et la guérilla est responsable de 30% de cette violence.
Oui, oui, correct. Les statistiques qu'on mène depuis des années, mais on a aussi une discussion très forte avec le gouvernement. Le gouvernement dit toujours que la violence attribuée aux paramilitaires, c'est une violence différente à la violence de l'État. Pour nous, la responsabilité des crimes perpétrés pour les paramilitaires est attribuable à l'État. Et on a déjà 6 sentences de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans lesquelles la responsabilité sur les agissements des paramilitaires est une responsabilité étatique. Mais c'est que la communauté internationale a déjà compris sont les exactions et les crimes perpétrés pour les FARC, principalement. Mais on n'a pas encore une conscience claire sur le rôle de l'État. Et il faut le dire très clairement aussi. L'État colombien post d'un État démocratique, je n'oserais pas dire que c'est un État fasciste, mais qui a développé des traitements criminels contre l'opposition et contre la population civile aussi. Donc il faut être très symétrique et très clair dans une vision complexe de la Colombie.
Aujourd'hui, votre président Alvaro Uribe a entrepris la démobilisation des unités paramilitaires. On est dans une période d'apaisement.
Et le gouvernement fait l'effort de présenter ce processus comme une démobilisation. Et il a présenté des chiffres gigantesques de personnes qui ont été dans les groupes paramilitaires qui ont entrepris déjà la voie de la civilité. Mais en réalité, on a encore en Colombie, dans presque 20 provinces, départements, comme on dit en Colombie, la présence de groupes paramilitaires. Il y a des groupes qui fonctionnent avec une unité de commandement, c'est-à-dire qu'ils obéissent des ordres de chef, qui font des agissements contre les civils et qui ont une motivation politique, c'est-à-dire d'anéantir les opposants et les leaders des associations paysannes ou des syndicats pour nettoyer, entre guillemets, de vastes zones du pays.
Mais tout de même, on est un peu stupéfait quand on regarde depuis quelques mois ce qui se passe ici. Il n'y a pas un jour sans que dans le cadre de la démobilisation, les repentis, mais vraiment entre guillemets, dénoncent. Et vous avez des membres du gouvernement qui sont en prison, vous avez des ministres des Affaires étrangères, je ne sais plus, le responsable des services de communication du ministère de l'Intérieur, etc. Toute une série de plus hauts personnages de l'État qui sont en prison, qui sont arrêtés. On a tout l'entourage très très proche de votre président est accusé avec des éléments accablants. On se demande comment c'est possible, enfin comment l'opinion arrive à avaler ça sans bouger. Est-ce que c'est encore une fois la peur qui explique tout? Et comment ce président parvient-il à se maintenir avec une cote de popularité apparemment, on ne sait pas très bien comment elle est calculée, enfin apparemment élevée?
Oui, c'est très difficile à expliquer ça. Mais
Javier Géraldo,
il y a une espèce de nettoyage de la politique. Je crois que la plupart des congressistes qui sont en prison maintenant vont jouer d'une espèce d'amnistie dans quelques mois. On a commencé déjà à parler d'une loi d'amnistie pour les congressistes et pour les politiques, ils ont besoin maintenant de nettoyer et de légaliser toute la violence de la classe politique et de la classe militaire et paramilitaire.
Merci à tous, merci à Javier Geraldo, Ivan Cepeda Castro. C'était un reportage avec Guy Vanctil et Antoine Chao, à lire de Roré Enrique Botero, Ultimas Noticias de la Guerra, où ce journaliste, grand journaliste et romancier, raconte l'histoire de Clara Rora. C'est en espagnol uniquement, c'est aux éditions Débat. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, j'y suis. À la technique, Cédric Lalanne, Pascal Baldassaris et Yann Choukaïko, Yann Guin, qui ont réalisé cette émission. Et nous attendons vos réactions sur le répondeur de La Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.